Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alia Tovin, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Arjuna Andrade. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Florent Bujon.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième épisode de notre série consacrée aux sanctions économiques. Hier, nous sommes revenus sur le blocus continental décrété par Napoléon au début du 19e siècle pour étouffer l'économie britannique. Demain, nous verrons comment les États-Unis utilisent l'arme du droit pour faire plier les entreprises étrangères. Jeudi, c'est la philosophie de la sanction et son rôle social que nous examinerons. Mais d'abord, retour à l'aube des années 90. Après la chute de l'Union soviétique, les sanctions économiques se multiplient de façon inédite. L'embargo, le boycott ou le gel d'avoir sont alors conçus comme des moyens d'accroître la pression sur un État tout en évitant une intervention militaire. Mais ces mesures sont-elles vraiment efficaces et sur quoi fondent-elles leur légitimité? Voilà les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos deux invités. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer la géopolitique des sanctions économiques en compagnie de François Géré, historien, président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique et auteur de L'Homme, la politique et la guerre, paru aux éditions Nuvis. En compagnie également de Jean-Marc Touvenin, en duplex de La Haye, professeur de droit international à l'Université Paris-Nanterre, secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye et jurisconsulte à la Cour internationale de justice. En fin d'émission, Amélie Perrault sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Nous allons de l'avant en renforçant les échanges. Avec seulement 140 km entre nous, nous sommes des partenaires économiques naturels. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Par chance, nous n'avons pas à nager avec d'éventuels requins afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, vous et moi. L'embargo va prendre fin. Quand ? Je ne peux pas en être absolument certain, mais je suis persuadé qu'il va prendre fin. Et nous continuerons à avancer sur cette voie après mon administration. La raison est logique. Si vous continuez à faire quelque chose encore et encore pendant 50 ans et que cela ne marche pas, il peut être sensé de tenter quelque chose de nouveau.
François Géré, Jean-Marc Touvenin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait du discours de Barack Obama à La Havane le 21 mars 2016. Le président américain qui reconnaît l'échec des sanctions économiques infligées à Cuba en 1962. 54 ans d'embargo pour rien. Cuba, François Géré, c'est un cas d'école pour qui s'intéresse à l'efficacité des sanctions?
Pas certainement, parce que le facteur temps, en principe, est censé jouer en faveur des sanctions. Et dans le cas précis de Cuba, on se rend compte que le régime a pu tenir, que l'économie, certes, qui n'était pas en bon état, néanmoins a pu se maintenir, et que dans ces conditions, les sanctions qui ont été prononcées contre Cuba n'ont finalement abouti à rien d'autre. Et il a fallu à un moment donné le reconnaître, encore que, la nouvelle administration américaine
revient en arrière,
a tendance à revenir effectivement en arrière et à considérer qu'il faut continuer à sanctionner le régime de La Havane. On se demande véritablement pourquoi, alors que maintenant le monde entier a rétabli ses relations avec Cuba.
Jean-Marc Touvenin, l'exemple de Cuba est un argument pour les détracteurs justement des sanctions économiques?
Ça dépend. Les sanctions infligées à Cuba reposent sur une histoire particulière des États-Unis avec ce pays. Ce qui a surtout échoué dans cette affaire, c'est la volonté américaine de partager sa politique à l'égard de Cuba avec le reste du monde. Il y a eu une résistance, en réalité, du reste du monde. J'étais à l'ONU le jour où, c'était en 2017, le jour où, non, 2016 d'ailleurs, le jour où l'ONU a voté pour la énième fois une résolution condamnant le blocus et l'embargo sur Cuba infligé par les États-Unis. Et cette année-là, les États-Unis se sont abstenus.
Alors que jusqu'ici, ils avaient toujours voté contre.
Exactement. Tonnerre d'applaudissements à l'Assemblée générale. L'ambassadeur américain est venu expliquer qu'il fallait pas se réjouir trop tôt, mais enfin que c'était un geste. Et puis c'est vrai que l'année suivante, c'était reparti pour un tour. Toujours aussi inefficace en termes politiques, mais en termes d'appauvrissement de Cuba, je peux vous dire que c'est très efficace.
Alors il va falloir passer par un effort de définition pour justement essayer de prendre la mesure de ces différents termes. Comment est-ce qu'on peut différencier ces termes de blocus, d'embargo ou encore de boycott, François Géré? Par exemple, pour Cuba, est-ce qu'il faudrait parler de blocus ou d'embargo?
Oui, il y a plusieurs étapes qui se sont succédées dans le cas de Cuba. Dans le cas de la crise proprement dite des missiles de Cuba, il y a eu effectivement un blocus de l'île. Un blocus, c'est un acte militaire. Ça veut dire que tout navire qui cherche à passer une certaine ligne est immédiatement arraisonné par une marine de guerre.
Là où l'embargo et le boycott sont véritablement des sanctions économiques.
Voilà. Le boycott et l'embargo ne sont des sanctions purement économiques, commerciales, qui ne sont pas appuyées par des moyens militaires. On est donc dans une configuration très différente, parce que si vous rompez un blocus par la force, vous entrez dans une situation de guerre. Or, précisément, ce que les sanctions, disons modérés, type embargo, veulent éviter, c'est qu'on arrive à l'épreuve de force.
C'est le conflit armé. Et alors, quels sont les différents objectifs, Jean-Marc Touvenin, visés par les sanctions économiques? Parce qu'une même sanction peut viser des objectifs assez différents, finalement.
Un mot sur le blocus. Les Cubains parlent de blocus, hein, même actuellement. Alors c'est un peu un abus de langage, mais pas tant que ça, parce que les Américains ont des techniques en matière de sanctions économiques qui sont extrêmement fines. Et par exemple, ils interdisent, ou en tout cas, ils sanctionnent par des pénalités financières toutes les entreprises d'assurance qui assureraient des navires transportant des marchandises vers Cuba ou de Cuba. Et donc, comme évidemment Cuba est une île, la plupart, l'essentiel du commerce important se fait par la mer. Et si les navires peuvent pas s'assurer auprès des grands assureurs américains, ils n'y vont pas. Et donc, il y a un effet blocus hein, qui vise le monde entier, tous les transporteurs, même s'il n'est appliqué que par les États-Unis. C'est pour ça que les Cubains parlent quand même de blocus.
Et ce que vous nous dites, c'est que les termes ont leur importance. Parce qu'effectivement, dans le blocus, on entend cet aspect militaire, en effet.
Oui, le blocus, en principe, c'est une forme de siège. Hein, c'est une forme de siège physique qui emploie la force. En tout cas, qui promet l'emploi de la force en cas de violation du blocus. Alors, concernant les objectifs des sanctions, ils sont multiples. Les États y recourant dès qu'ils ne sont pas contents les uns à l'égard des autres. Alors, l'argument principal, c'est la violation des droits de l'homme. On est entré dans une ère de mondiale où la violation alléguée ou prouvée des droits de l'homme génère un émoi dans tous les pays. Et les États ont tendance à réagir à cette information qui vient de l'étranger de la manière la moins dommageable possible pour eux, c'est-à-dire en adoptant des sanctions économiques. Donc, on est dans la violation du droit, des droits de l'homme. Il y a d'autres types de violations du droit qui suscitent des sanctions. Par exemple, évidemment, la violation des frontières. Donc, les sanctions infligées à la Russie après l'invasion de la Crimée, Et la crise
en 2014. En effet, voilà. On va y revenir, c'est un aspect important. Et la question des droits de l'homme aussi, qui fixe ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, c'est un enjeu évidemment très important. Mais d'abord, François Géré, ce qu'il faut dire, c'est que la guerre économique à des fins politiques, c'est une pratique ancienne dont il serait assez difficile de dater l'origine.
Oui, certainement. Les mesures de rétorsion économique, vous pouvez les faire remonter, je dirais, dès l'existence des marines, hein, les guerres économiques et les sanctions, ça se retrouve dans le commerce entre la France et l'Angleterre au XVIIe, au XVIIIe siècle. Il y a bien entendu le fameux blocus continental
dont on parlait hier,
prononcé par Napoléon à l'égard de l'Angleterre, qui, soit dit en passant, n'a donné aucun résultat finalement favorable à la France. Vous avez une très très longue succession.
Mais c'est après la Première Guerre mondiale, François Géret, pardon de vous couper, qu'émerge l'idée que les sanctions économiques pourraient permettre d'éviter la guerre. Elles ne sont plus un complément à la guerre, comme ça avait pu être le cas pendant la Première Guerre mondiale.
Oui.
Ou plus seulement.
Oui. Maintenant, la situation reste quand même fondamentalement ambiguë. On peut, à contrario, dire que si on prend par exemple les sanctions économiques qui ont été prises en 1939 par les États-Unis à l'égard du Japon, on peut dire que la situation économique et les approvisionnements énergétiques du Japon étant en danger, cela l'a incité incontestablement à l'agression de Pearl Harbor en 1941. Donc, en fait,
manipuler des sanctions,
c'est un jeu dangereux. C'est-à-dire que vous pouvez amener l'adversaire à reculer comme vous pouvez l'amener pratiquement à pratiquer la politique du pire.
Alors avant d'en venir à la décennie des sanctions, la décennie 90, on peut peut-être préciser que dans les années 60 et 70, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été infligées à la Rhodésie du Sud, le futur Zimbabwe et à l'Afrique du Sud. Et c'est des sanctions qui se sont révélées plutôt efficaces, François Géret.
Dans le cas de la Rhodésie, effectivement, il y a eu une certaine efficacité. Dans le cas de l'Afrique du Sud, là encore, le débat est considérable. D'abord parce que...
L'objectif était déjà de mettre fin à l'apartheid ?
L'objectif était de mettre fin à l'apartheid. L'objectif était aussi de mettre un frein aux violations grossières des droits de l'homme et la répression féroce qui était pratiquée à l'égard des Noirs. Et la question, c'est de savoir si, effectivement, l'Afrique du Sud a été suffisamment sérieusement touchée. Parce que le facteur temps a été très, très long. Ça n'a pas empêché l'Afrique du Sud de continuer à avoir des contacts avec un certain nombre d'autres pays. Ça n'a pas empêché l'Afrique du Sud, pendant pleine période, de construire 6 armes nucléaires, en se procurant donc tous les moyens pour le faire. Et finalement, on peut se demander si les sanctions n'ont pas aussi pesé contre la majorité noire en aggravant les conditions de travail et les conditions de vie. Donc c'est un embargo très compliqué qui a pris fin, en fait, fondamentalement, avec la fin de la guerre froide.
Et Jean-Marc Thouvenin, dans ce qu'on entend de ce que dit François Géret, c'est qu'il faut une forme d'unanimité, ou au moins que le plus de pays possible soient mobilisés dans un embargo pour qu'il fonctionne.
Oh oui, ça c'est un peu une évidence. Lorsque les sanctions économiques sont mises en œuvre sous l'égide des Nations Unies, elles sont forcément plus efficaces parce que plus suivies, considérées comme plus légitimes, comme plus indispensables, que quand elles sont décidées, mises en œuvre par un État ou une coalition d'États qui ne s'appuie pas sur les Nations Unies. Ça, c'est tout à fait d'accord.
Et alors, il y a ce qu'on a appelé la décennie des sanctions, la décennie 90. Cela commence avec l'Irak après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein le 2 août 90. Comment expliquer cette inflation des sanctions économiques à cette période, François Géret?
Fondamentalement, je crois que c'est très important de rappeler la fin de la guerre froide. On change de système mondial. On a d'abord le sentiment que la communauté internationale a désormais une voix plus forte pour se faire entendre, qu'il est plus facile d'obtenir un accord unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies, désormais, puisqu'il n'y a plus de veto soviétique, et l'idée se fait jour que par des moyens pacifiques, par une coercition pacifique, ou si vous voulez par une persuasion, on peut obtenir des résultats sans avoir à engager les moyens militaires sans avoir à faire la guerre. En d'autres termes, il y a un changement dans la panoplie des outils stratégiques de coercition pour obtenir un résultat déterminé.
Jean-Marc Touvenin, vous parleriez vous aussi d'un changement à partir de cette décennie 90 qui voit effectivement se multiplier ces sanctions économiques ?
Oh bah c'est un changement dans la pratique, pas dans la panoplie à la disposition des Nations Unies, puisque depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies, dans le cadre du chapitre 7, le Conseil de sécurité peut décider de mettre en place un embargo ou d'autres formes de sanctions économiques, si tant est qu'il arrive à en décider. Et ce qui a vraiment changé, effectivement, au tournant des années 90, c'est que le Conseil de sécurité est parvenu à s'accorder, à prendre des décisions. Et les décisions, effectivement, normales à prendre, parce qu'il y a une sorte, si vous voulez, dans la Charte des Nations Unies, il y a une sorte de gradation hein, des moyens à mettre en œuvre pour obtenir que les choses rentrent dans l'ordre. Et l'un des premiers moyens, c'est la sanction économique. Le recours à la force arrive après. Et le Conseil de sécurité est parvenu à se mettre d'accord beaucoup plus facilement à partir des années 90 pour recourir à la sanction économique. Et puis, progressivement d'ailleurs, il a réussi à se mettre d'accord pour aller un peu plus loin et on aboutit à la responsabilité de protéger. Bon, ça n'a pas marché très longtemps, mais...
Sur laquelle on va revenir. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, le 18 mars 2014, que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Marc Touvenin, les États-Unis et l'Union européenne infligent de lourdes sanctions économiques à la Russie.
La paix à la périphérie de l'Europe est beaucoup plus fragile que nous le pensions. Et donc, l'Europe a réagi d'une façon déterminée. On dit souvent, voilà, ces sanctions et l'annonce d'autres sanctions ne va pas conduire M. Poutine à changer de direction. Mais il est évident que nous devions réagir de la façon dont nous avons réagi. L'alternative aux sanctions, c'est la guerre. Comme nous ne voulons pas la guerre et comme nous devons réagir à ce qui fut fait par Poutine et la Russie, nous devons rester sur cette ligne qui consiste à augmenter le niveau des sanctions suite au comportement russe.
L'alternative aux sanctions, c'est la guerre. Voilà ce que disait Jean-Claude Juncker, alors candidat à la présidence de la Commission européenne en avril 2014. Les sanctions, François Géré, permettent avant tout aux autorités de montrer qu'elles réagissent.
Oui, et puis en même temps d'exercer une pression qui peut ne pas être négligeable. On est dans la situation où, face à un état de fait, dans le cas de la Crimée, l'annexion pure et simple, on se dit il faut absolument faire quelque chose. Alors effectivement, personne n'a l'intention d'aller se battre pour, entre guillemets, rejeter la Russie hors de Crimée. Alors qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste effectivement les sanctions économiques, les sanctions commerciales, les sanctions financières, sanctions sur des personnes individuelles. Et on peut espérer que ça produise un effet. Malheureusement, dans le cas de la Crimée, on est de manière caractéristique devant un échec, c'est-à-dire devant une impasse. On sait très bien que la Russie ne quittera pas la Crimée. Donc, on est dans une impasse qui peut durer pendant des années, voire des dizaines d'années, jusqu'à ce que on oublie finalement le phénomène historique, et puis on sera obligé de reconnaître la réalité.
Mais est-ce que ce n'est pas une façon, tout de même, pour l'Union européenne, qui n'est pas une puissance militaire unifiée, de justifier son statut d'acteur global à travers ces sanctions, François Géré ?
Oui, elle le justifie, mais en même temps, elle le justifie mal. Parce que certains à l'intérieur de l'Union européenne souhaitaient l'aggravation des sanctions, et vous avez un certain nombre de pays, comme l'Allemagne par exemple, qui ont refusé d'alourdir les sanctions en cherchant à obtenir une sorte d'accord, de compromis. On ne sait pas très bien sur quoi d'ailleurs. Donc, là encore, ni l'Union européenne, ni chaque État en particulier ne parvient à se mettre d'accord sur le degré de sanctions et sur l'évolution des sanctions à travers le temps. En France, vous avez une sorte de lobby, si vous voulez, pro-russe, qui disent ces sanctions sont ridicules, elles pénalisent le commerce français, elles nous empêchent d'exporter nos produits agricoles, il faut donc en finir avec ces sanctions qui n'aboutissent à rien.
Ce qui est vrai par ailleurs, en l'occurrence l'Union européenne est largement pénalisée sur un plan commercial
absolument.
Par les sanctions qu'elle applique à la Russie.
Absolument. Donc des sanctions qui n'aboutissent pas, des sanctions qui s'enferment dans l'indéfini du temps, sont évidemment manifestement pas la bonne solution.
Et alors ce qu'il faut dire aussi, vous avez cité les sanctions financières, François Géré, les sanctions d'une façon générale se sont complexifiées et désormais les puissances occidentales ont de plus en plus recours à ces sanctions financières. Il y a une financiarisation des sanctions à laquelle on assiste aujourd'hui ?
Oui, incontestablement. Alors évidemment, ce sont les États-Unis qui donnent l'exemple, puisqu'ils manipulent vraiment l'arme financière et utilisent l'extraterritorialité de leurs droits pour pénaliser les pays qui contreviennent à ce que les États-Unis considèrent comme des sanctions légitimes qui doivent être respectées par tout le monde. On a donc un certain nombre d'organismes bancaires français, on pense à Paribas en particulier, ont dû payer des sommes considérables, plusieurs milliards d'euros, pour payer des infractions, un commerce considéré comme illégal avec l'Iran, avec le Soudan, avec un certain nombre d'autres pays.
Il y a les amendes et puis les déconnexions du circuit du réseau international de communication interbancaire, SWIFT, qui a aussi permis de suspendre l'accès de certaines banques
Absolument.
Iraniennes à ce réseau il y a
Absolument.
Quelques mois.
On peut isoler financièrement un pays avec donc toutes les répercussions que ça peut avoir. Et on voit aujourd'hui, dans le cas de l'Iran, naturellement, les conséquences que ça a en termes de désorganisation du système financier, avec à la clé l'inflation, les trafics de devises, etc., etc.
Jean-Marc Touvenin, quels sont les arguments qui sont invoqués par l'ONU pour justifier le recours aux sanctions ? Vous disiez que l'ONU s'appuyait sur une conception assez large de la menace, finalement, et de cette fameuse nécessité de protéger.
Alors, c'est le Conseil de sécurité qui a le pouvoir, qui a la capacité d'adopter des mesures restrictives et économiques, qu'on va appeler donc des sanctions, sur la base donc de l'article 41 de la charte. Il le fait dans le cadre de la charte. Et donc la charte lui permet d'activer le chapitre 7 lorsqu'il y a une menace à la paix et la sécurité internationale ou un acte d'agression. Donc il ne peut pas, le Conseil de sécurité, activer la sanction économique n'importe comment. Il faut qu'il qualifie d'abord une situation de menace à la paix ou à la sécurité internationale ou d'un acte d'agression. Alors les menaces à la paix et à la sécurité internationale, ça c'est un concept qui est extrêmement large. Lorsqu'il y a une guerre civile avec un pouvoir qui a l'air de persécuter une minorité, par exemple, il va dire, là il y a une menace à la paix et à la sécurité internationale parce que ça crée des mouvements aux frontières et je vais adopter un certain nombre de mesures. Et les mesures qu'il va adopter, ça va être par exemple, un embargo sur la vente d'armes. C'est le genre de sanctions économiques la plus faible, mais qui se justifie par l'argument consistant à dire « il y a une guerre civile dans ce pays, évitons de l'amplifier en interdisant donc la vente d'armes à ce pays ».
Mais c'est une intervention qui peut poser problème par ailleurs, Jean-Marc Touvenin, puisque si jamais il y a un groupe qui dispose des armements et qu'on interdit les ventes d'armes, on peut finalement déséquilibrer un conflit déjà existant.
C'est ce qui a été dit dans le cadre du Kosovo. Le Conseil de sécurité était intervenu dans cette affaire, notamment par un embargo sur les armes, et les musulmans de Bosnie s'étaient retrouvés effectivement en infériorité en termes de puissance de feu face aux Serbes, et ne pouvaient plus se défendre. À tel point d'ailleurs qu'un juge ad hoc, dans une affaire devant la Cour internationale de justice, a mis en garde le Conseil de sécurité en disant que s'il n'y prenait pas garde, justement, et il pourrait se livrer, se rendre complice d'un crime contre l'humanité.
Et puis l'autre problème, évidemment, c'est que parallèlement à l'ONU, vont se multiplier les sanctions décidées de façon unilatérale par les États ou les organisations régionales comme l'Union européenne, les champions en la matière étant bien sûr les États-Unis. Et à ce moment-là, les sanctions apparaissent peut-être comme l'arme du puissant sur le plus faible, avec cette question qui se cache derrière, qui est qui définit ce qui est juste, Jean-Marc Thévenin ?
Oui, précisément, il y a tout un courant de pensée qui dit que les sanctions ne sont justes que si elles sont adoptées par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire en réalité si elles sont légales. Mais on voit bien qu'il y a un décalage entre la légalité de la sanction d'un côté et sa nécessité ou sa légitimité de l'autre. On peut imaginer que certaines sanctions unilatérales, hein, celles qui sont adoptées par un État ou par un groupe d'États et pas par les Nations Unies, on peut imaginer que certaines d'entre elles soient légitimes, même si elles ne sont pas couvertes par le Conseil de sécurité. D'ailleurs, ce dernier est souvent bloqué par un veto. Donc, bien souvent, c'est la non-action du Conseil de sécurité qui n'est pas légitime, plus que l'action de ceux qui compensent son inaction.
Mais toute la question, c'est est-ce que ces sanctions unilatérales contribuent à maintenir la stabilité de l'ordre international ou simplement à servir les intérêts des pays occidentaux ?
Il y a indubitablement un positionnement d'un certain nombre d'États qui consiste à dicter un petit peu leur vision des choses aux autres. D'ailleurs, il suffit de lire le traité de l'Union européenne pour voir que l'Union européenne elle-même dit qu'elle a une conception de ce que doit être la vie internationale, la vie sociale, et qu'elle veut la faire valoir sur le plan international. Bon, mais vu d'ici, on peut souvent adhérer. C'est-à-dire que les violations massives des droits de l'homme, donnent le sentiment aux gens d'ici qu'il faut agir. Donc la question de la légitimité est très subjective. Hein. Celui qui inflige la sanction la considère toujours comme légitime, celui qui la subit la considère illégitime. Ça, c'est tout à fait classique. Et c'est pourquoi le droit, bien souvent, est un standard à l'aune duquel il est intéressant d'évaluer les sanctions.
François Géré, sur cette question de la légitimité et aussi sur le fait qu'on a le sentiment que c'est une vision du monde qui est portée et imposée par les plus puissants sur des pays souvent plus faibles sur un plan économique.
Alors le principe, c'est effectivement d'avoir un droit absolument indiscutable. Et effectivement, c'est le vote unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies qui permet de se mettre dans ce cas de figure. Alors, on y arrive effectivement pas toujours, et à ce moment-là, un certain nombre d'États, un groupe d'États prend des sanctions parce qu'il estime que c'est justifié. Bon, alors c'est évidemment très gênant parce que ça veut dire que les autres États ne se sentent pas contraints, et ça peut les conduire à avoir une activité finalement de soutien aux pays sanctionnés. Si vous prenez par exemple le cas de la Corée du Nord a été soumise à un certain nombre de sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant en particulier ses tirs de missiles balistiques et ses essais nucléaires, mais la Corée du Nord a été sanctionnée de manière extrêmement différente selon les votes du Conseil de sécurité. Il y a des votes auxquels la Russie et la Chine n'ont pas voulu s'associer. Dans ces conditions, la Corée du Nord, bien que sanctionnée sur le plan financier, économique, en dépit d'un embargo sur ses livraisons d'armes, la Corée du Nord continue à être soutenue par l'économie chinoise, par des transferts de ressources venues de la Russie.
Ce qui ruine les efforts américains en termes d'embargo.
Et du coup, les efforts américains, évidemment, sont évidemment en porte-à-faux.
Mais est-ce que la sanction est encore aujourd'hui l'arme des puissants sur les plus faibles, si je puis dire ? On a vu aussi l'Union européenne et les États-Unis infliger des sanctions contre des États puissants. La Russie, on l'a dit, mais aussi la Chine, après Tiananmen, et plus tard également, François Géré.
Oui. Vous mentionnez Tiananmen, qui a entraîné un embargo sur les transferts de technologies liées aux armements. Et ça a effectivement gêné pendant un certain temps la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine s'est dotée de la deuxième armée du monde. Et finalement, le résultat de l'embargo s'avère extrêmement limité sur le long terme.
L'utilité d'un embargo sur un pays aussi
cela
puissant
dit, tout
que...
dépend de ce qu'on appelle le plus faible. Parce que c'est lié à l'état de l'économie du pays. Si vous avez un pays qui a finalement une relative indépendance économique comme la Russie continue à exporter ses ressources énergétiques. Mmh. Et du coup, les sanctions sont d'un effet limité. Si vous considérez, par exemple, un pays comme l'était l'Irak, à partir de 1991, les sanctions ont créé une situation extrêmement dure parce que le pays était économiquement très affaibli.
On va revenir sur ces questions et notamment sur la question de la légalité de ces sanctions dans un instant.
I was out in the city. I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about time long ago. I was young.
On écoute Out of Control des Rolling Stones, extrait d'un concert gratuit donné à Cuba en mars 2016, trois jours seulement après la visite de Barack Obama sur l'île. Nous sommes toujours avec François Géré et Jean-Marc Touvenin en duplex de La Haye. Entendez-vous l'écho sur France Culture? Alors face aux sanctions économiques qui se multiplient, que dit le droit? Quelles sont les sanctions qui posent des problèmes juridiques? Écoutons d'abord le directeur de la formation des études et de la recherche de l'IHEDN, Jean-Jacques Roche.
Même lorsque les sanctions très fortes, là on est passé dans le cadre du chapitre 7, même lorsque ces sanctions ont été prises, la communauté internationale a été très prudente. François Mitterrand dit quelques jours après l'adoption de cette résolution, on a porté atteinte aux modalités d'exercice de la souveraineté irakienne et non pas à la souveraineté irakienne. Donc on est très prudent. on sait très bien que les sanctions vont à l'encontre de la souveraineté des États, du droit souverain des États de déterminer ce qui leur semble naturel et légitime. Et ce sont deux légitimités qui se heurtent et la communauté internationale est très prudente.
Le chercheur Jean-Jacques Roche qui revenait au micro de Florian Delorme sur l'embargo international imposé à l'Irak en 1991. Les sanctions économiques entrent en conflit avec le respect de la souveraineté des États, Jean-Marc Touvenin.
Ça dépend quelles sanctions. L'embargo. Prenons l'embargo. Hein. On a parlé tout à l'heure du blocus, qui est un cas un peu à part. L'embargo, c'est le fait pour un État de dire à ses ressortissants, aux entreprises qui sont sous sa juridiction, vous ne pourrez plus commercer, vous ne pourrez plus vendre vos produits à l'État cible. Hein. Et ce faisant, l'État qui décide d'un embargo exerce sa souveraineté. Il exerce sa souveraineté sur son territoire, il exerce sa souveraineté à l'égard de ses nationaux et des personnes qu'il a sous sa juridiction. Il n'y a rien de contestable à cela. Alors, bien entendu, en exerçant sa souveraineté, il poursuit un objectif. Et c'est cet objectif dont on va dire qu'il est contraire à la souveraineté d'un autre État. Mais on voit bien qu'on se retrouve confronté à une tension entre deux souverainetés. Celle d'un État qui dit « chez moi, je ne veux pas que mes gens commercent avec tel État pour une raison que j'estime légitime », et l'autre État qui dit « ah, mais vous portez atteinte à ma souveraineté ». Du point de vue du droit international, moi je considère qu'un embargo en soi ne peut pas être considéré comme illégal, dès lors, encore une fois, qu'il ne vise qu'à ordonner aux gens qui sont sur le territoire d'un État, l'État sanctionnateur, de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses.
Oui, mais en l'occurrence, dans le cas irakien, François Géré, l'embargo s'est apparenté à une punition de la population qui a énormément souffert des sanctions, alors que c'était le régime de Saddam Hussein qui était visé. Et on pensait que ça allait faire chuter le régime de Saddam Hussein, mais c'est la population, finalement, qui a fait les frais de cet embargo.
Malheureusement, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Si vous prenez effectivement l'Irak, si vous prenez l'Iran, si vous prenez la Corée du Nord, ce sont des pays dont les dirigeants, finalement, n'ont guère souffert. Par contre, la population a été très 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 sérieusement ébranlée par ces mesures. Je me souviens, il y a quelques années à Téhéran, il était plus possible de trouver un certain nombre de produits pharmaceutiques. Bon, et bien entendu, les dirigeants, eux, parvenaient à les faire transiter jusqu'à eux.
Et pourtant, on continue à croire que, en appauvrissant un pays, on va créer finalement des révoltes sociales qui vont entraîner la chute d'un régime. C'est ça le calcul ?
Voilà. Alors ça, c'est si vous prenez par exemple à l'heure actuelle la diplomatie américaine à l'égard de l'Iran, l'idée c'est qu'il faut des sanctions de plus en plus nombreuses, de plus en plus lourdes, et au bout d'un moment, l'exaspération de la population fera tomber le régime, l'économie s'écroulant totalement, ça ne sera plus tolérable, et donc derrière les sanctions, on ne cherche plus un compromis, on cherche en fait un renversement complet, et donc c'est d'une certaine façon, on pourrait dire, la sanction équivaut à une tentative masquée de coup d'État.
Mais vous y croyez, à cette possibilité d'une chute d'un régime uniquement avec des sanctions économiques et financières ?
Alors, le problème, c'est qu'on ne l'a jamais vu.
Parce qu'en l'occurrence, ce qui a été dit dans le cas de l'Iran, c'est que ces sanctions avaient au moins permis l'accord sur le nucléaire iranien qui a été signé en 2015. Donc ça a été un moyen de pression. En ce sens, ces sanctions ont été efficaces. Mais effectivement, la perspective d'un changement de régime paraît peut-être plus compliquée, Jean-Marc Touvenin.
J'aimerais revenir une seconde sur l'effet contraire aux droits de l'homme des sanctions. Effectivement, vous parliez de l'embargo sur l'Irak. Il a eu des effets terribles sur la population irakienne à l'époque, ce dont les Nations Unies ont tenu compte. Elles avaient recouru à cet embargo en pensant que les choses allaient rentrer dans l'ordre rapidement, c'est-à-dire que le régime de Saddam allait laisser les inspecteurs de l'ONU vérifier son armement, ce qu'il n'a pas fait. Et donc l'embargo a duré. Et durant, il a effectivement porté atteinte à un certain nombre de situations humanitaires de manière intolérable. Ça, c'est effectivement une conséquence possible d'un embargo généralisé mis en place par les Nations Unies. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles se sont tournées vers des sanctions, dit-on, plus intelligentes. Mais les États-Unis, pour le coup, vis-à-vis de l'Iran, sont revenus à au gros marteau, à la grosse frappe, en imposant un quasi-siège économique de l'Iran. Alors, est-ce que ça peut marcher? Franchement, je n'en sais rien. Moi, je constate que le monde entier, à part les États-Unis, enfin, une grande partie du monde, conteste les sanctions américaines. L'Europe essaye de trouver des passages pour continuer ou pour reprendre le commerce avec l'Iran. Et dans ces conditions, je ne vois pas très bien comment le regime change, comme on dit, américain, pourrait fournir ses fruits.
Et alors, ce que vous proposez, à vous, Jean-Marc Touvenin, c'est de distinguer les sanctions qui constituent un abus de droit des autres sanctions. Et l'embargo constituerait en cela une sanction qui ne constituerait pas un abus, contrairement peut-être au gel des avoirs d'un État via le gel des fonds de sa banque centrale, par exemple.
Alors, d'un point de vue juridique, comme je l'ai dit à l'instant, que ce soit d'ailleurs l'embargo ou le boycott, quand un État décide de dire à ses gens, à ses nationaux, vous n'avez plus commercé avec tel ou tel État, je ne vois là que l'exercice normal de la souveraineté nationale. Il y a des conséquences sur un État tiers, et alors, c'est pas très grave, cet État tiers peut se tourner vers d'autres fournisseurs. Évidemment, lorsque l'embargo est généralisé, quand il est mis en place par les Nations Unies, là, il peut y avoir des conséquences dramatiques sur la population. Et on parle d'un autre type d'embargo qui pose d'autres problèmes. Moi, je parle de l'embargo décidé unilatéralement. Alors, s'agissant des sanctions économiques mises en place par les États-Unis, leur particularité, je crois que c'est à peu près les seules, c'est qu'elles ont une portée extraterritoriale. Et c'est à travers cette extraterritorialité que l'on va pouvoir discuter leur légalité. Je viens de dire à l'instant qu'une sanction qui s'adresse à vos gens, c'est l'expression de votre souveraineté. Mais quand un État dit à un autre État, aux populations d'un autre État, « Vous ne pourrez pas commercer avec l'État qui est ma cible », là, on sort de l'exercice par un État de sa souveraineté nationale pour entrer dans l'extraterritorialité. Et là, on commence à entrer dans ce qui peut être qualifié d'abusif, dans certains cas, alors c'est assez... il faut développer un raisonnement là-dessus, mais dans ce qui peut être considéré comme abusif. Et moi, j'observe que les Nations Unies adoptent régulièrement des résolutions condamnant, alors c'est politique, mais manifestant la claire conscience que les sanctions extraterritoriales ne sont pas conformes au droit international parce qu'elles sont abusives.
François Géré, sur des sanctions qui seraient abusives et d'autres qui ne le seraient pas, il y a une nécessité d'établir peut-être un classement qui soit plus clair.
Il faut évidemment faire la distinction d'abord entre les sanctions unilatérales et les sanctions qui, comme je le disais, peuvent se réclamer d'une indiscutable légitimité à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, unanime. Bon, il est bien évident qu'un certain nombre de mesures, lorsqu'elles touchent les intérêts économiques de manière unilatérale d'un certain nombre de pays, posent immédiatement le problème du contournement. En d'autres termes, si les États-Unis sanctionnent l'Iran, font valoir les clauses d'extraterritorialité en disant aux entreprises françaises, allemandes, vous ne pouvez pas commercer avec l'Iran sur tel produit, vous ne pouvez pas effectuer de transactions en dollars, etc. Il y a d'abord, ce sont des mesures attentatoires à la souveraineté de ces États, et d'autre part, ce sont des mesures qui risquent le contournement parce que ces pays ne vont pas nécessairement accepter de se soumettre à ce qui est quand même un diktat et dont on ne voit pas la légitimité.
Ce qu'on entend, François Géré, dans ce que vous nous dites, c'est qu'on est très très loin de Keynes, qui dans les années 30 voyait dans les sanctions économiques un instrument de pacification sous-estimé. Aujourd'hui, il y a désormais un consensus sur le fait que la plupart des sanctions n'atteignent pas leurs objectifs.
Écoutez, on essaie naturellement d'évaluer les sanctions. Grosso modo, on est arrivé par différents calculs à la conclusion que à peu près un tiers des sanctions avaient un effet réel et que le reste ne fonctionnait pas.
Et ça vous paraît un chiffre important ou insuffisant ?
C'est un chiffre évidemment insuffisant par rapport à l'ambition qui est affichée. Le risque, naturellement, c'est l'inflation des sanctions unilatérales. Et plus on va dans cette direction, plus, d'abord, les sanctions par elles-mêmes se trouvent dévalorisées dans leurs principes, dans leur légitimité, et plus, naturellement, on aura tendance à dire à quoi bon ces sanctions, puisque finalement, elles ne serviront à rien.
Et puis, il y a aussi le risque que les sanctions infligées renforcent le sentiment nationaliste de la population qui est visée. Et ça peut entraîner comme effet le fait de conforter le pouvoir en place. On voit que Vladimir Poutine sait très bien manier ce filon-là.
C'est ce qu'on disait jusqu'à présent. On n'a jamais vu des sanctions entraîner un changement de régime. Inversement, on peut tout à fait constater le phénomène inverse. C'est-à-dire que la population se soude autour d'un gouvernement, même qu'elle n'aime pas, et celui-ci peut développer une politique nationaliste. Il peut aussi tirer parti des sanctions pour justifier sa mauvaise gestion économique. Car ce que nous constatons, par exemple, en Iran aujourd'hui, c'est que la gestion économique iranienne nationale est absolument épouvantable, et que le régime dit, mais vous voyez, si ça va tellement mal, c'est à cause des sanctions américaines.
Donc un tiers des sanctions qui auraient une certaine efficacité, selon François Géré, Jean-Marc Touvenin, ce qu'on entend, c'est qu'il peut y avoir un certain nombre d'effets pervers de ces sanctions, donc l'effet sur les populations dont on vient de parler, et puis aussi le fait qu'elles sont très coûteuses pour ceux qui les infligent, puisqu'avec la mondialisation économique, on se punit soi-même en voulant punir un autre État.
Oui, par exemple, si vous imposez un boycott sur le pétrole d'un grand pays producteur de pétrole, par hypothèse même, ça raréfie l'offre de pétrole sur le marché international et ça fait monter les prix. Donc, bon, mais ça, je pense que ça fait partie du jeu.
En 2014 et 2015, l'Union européenne aurait perdu 40 milliards de dollars d'exportations potentielles vers la Russie, selon une étude qui a été menée par deux économistes français, contre 69 milliards de dollars pour la Russie. Donc on voit que l'écart n'est pas si démesuré que cela.
Ben, on se demandait l'efficacité des sanctions. Moi, je crois que si l'Union européenne, pas seulement d'ailleurs les États-Unis aussi, beaucoup d'autres États ont adopté des sanctions contre la Russie à raison de l'invasion de la Crimée. Si l'Union européenne, pour en rester à elle, a adopté des sanctions, c'est pour ne pas faire autre chose. On disait que c'était une alternative à des mesures plus violentes ou plus guerrières. Ben, si ça n'est que ça, c'est déjà pas si mal. D'une certaine façon, la sanction économique, c'est une soupape de décompression, en quelque sorte. Elle permet à un État de dire « je suis pas content, je n'accepte pas cette situation, et vous voyez, je le montre, je ne reste pas dans les paroles, j'agis », sans pour autant agir de manière irresponsable. Je crois que c'est pas si mal. Alors ça coûte un peu d'argent, peut-être, mais c'est peut-être le prix à payer pour le maintien de la paix, tout en maintenant des principes. Quand même, partir du postulat que la Russie a annexé la Crimée et que ce sera comme ça pour toujours, moi je ne m'y résous pas. Le droit international est d'une clarté limpide à cet égard et on ne peut pas se résoudre à dire, bah, tant pis, un État en a pris possession du territoire d'un autre, il faut faire avec.
C'est
quelque chose qu'on ne peut pas l'admettre.
Je vous propose d'écouter François Hollande moins d'un an après l'annexion de la Crimée.
Il faut parler à Poutine, je l'ai fait. Mais en même temps, il faut parler clairement. Il faut lui dire ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et lui-même doit savoir s'arrêter. Et il le paye suffisamment cher. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions dont on a pu dire mais elles n'auront pas d'effet, etc. La baisse du prix du pétrole, qui à certains égards économiquement nous arrange, mais lui l'affaiblit. Il n'en dit rien. Bien sûr qu'il ne le laisse pas penser qu'il a la moindre difficulté. Il en a des difficultés. Une crise, ce n'est pas forcément bon non plus pour l'Europe. Donc je ne suis pas pour la politique du pire. Et je pense que les sanctions, maintenant, doivent s'arrêter. S'arrêter au sens, elles doivent être levées s'il y a des progrès. S'il n'y a pas de progrès, les sanctions demeureront.
Voilà, François Hollande, chez nos confrères de France Inter, le 5 janvier 2015. Donc, il y a 4 ans, le problème des sanctions, François Géré, c'est aussi qu'il est très difficile de les lever.
Oui, alors ça c'est une décision effectivement tout à fait délicate, c'est-à-dire estimer que ça suffit comme ça. Alors, soit parce qu'on a obtenu gain de cause, soit parce qu'on constate que finalement ça ne sert à rien.
Mais dans ce cas-là, c'est un aveu d'échec.
Et ça veut dire qu'on a choisi une mauvaise solution. Et donc la levée des sanctions est un phénomène d'ailleurs relativement rare. Et qui la levée des sanctions, en général, correspond à un changement de situation politique, non pas parce qu'elle a créé un changement de régime, mais parce que le contexte général a changé. Mmh. Dans le cas qu'on a relevé de la Crimée, on ne voit absolument pas la Russie se retirer de Crimée, alors qu'au contraire, elle ne cesse d'y affirmer sa présence et sa souveraineté. Et donc, au bout du compte, que fera-t-on ? Est-ce qu'on décidera qu'on ne veut plus en entendre parler ? Ce qui reviendrait à nier le droit international. C'est pour ça que les sanctions peuvent déboucher aussi sur une impasse à travers le temps.
Est-ce qu'il faut faire évoluer ces sanctions ? Jean-Marc Touvenant, vous parliez tout à l'heure de sanctions intelligentes. Ce sont ces sanctions plus ciblées. Et on sait que le Congrès américain a pris une série de nouvelles sanctions il y a un an qui visaient des oligarques russes dans le secteur de l'énergie, des denrées agricoles et des métaux. Ces mesures se sont révélées plus efficaces parce qu'elles étaient plus ciblées ?
Moi, je ne suis pas sûr qu'elles soient plus efficaces parce que plus ciblées, mais en tout cas, elles sont moins attentatoires, a priori, moins attentatoires aux droits humanitaires, aux droits de l'homme et à la situation des populations qui n'en peuvent rien. Donc c'est ça, le concept des sanctions ciblées, c'est qu'elles vont cibler en général financièrement, et c'est pour ça qu'on peut parler de financiarisation des sanctions économiques, elles vont cibler financièrement des individus dont on considère qu'ils sont impliqués dans l'acte que l'on dénonce. Par exemple, on va sanctionner en gelant les fonds, ou en interdisant de transport, ou de visa, les membres de la Douma, hein, russe, qui ont voté pour l'annexion de la Crimée.
L'Assemblée russe.
Voilà. Alors, est-ce que c'est efficace ? Bon, eux disent que non. Ils disent même pas mal. Et puis, la Russie adopte des contre-sanctions. Donc, elle a adopté une liste de hallucinante de noms de personnes également sanctionnées en Russie. Mais en tout cas, ça évite de frapper la population, disons, innocente. Mmh. Est-ce qu'on va vers plus d'efficacité ? Moi, je note que les États-Unis sont revenus à des sanctions non ciblées avec l'Iran. Hein. À l'égard de l'Iran, les sanctions sont absolument non ciblées.
Elles au Venezuela, en revanche, ce sont des sanctions extrêmement ciblées, qui touchent proches du président Nicolas Maduro.
Absolument. Alors, je pense que les États, enfin en tout cas les États-Unis, sont dans ce cas-là, modulent finalement l'arme économique en fonction de ce qu'ils estiment être ce qu'ils doivent faire. Alors soit ils doivent effectivement faire un regime change en essayant de sanctionner des personnes qui sont censées avoir des actifs chez eux. Et là, au Venezuela, je pense que c'est peut-être le cas. Soit ils adoptent des sanctions ciblées parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ça, c'est vis-à-vis de la Russie. Soit ils adoptent des sanctions plus massives quand ils ont vraiment un objectif qui tire ses racines d'un passé déjà très, très, très ancien. L'histoire des États-Unis et de l'Iran ne date pas d'hier. Oui.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous poser une dernière question. François Géré, on a le sentiment que les sanctions économiques sont peut-être avant tout un outil symbolique, même s'ils peuvent avoir des effets réels dont on a parlé. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas développer de nouveaux outils qui s'appuieraient sur l'incitation plutôt que sur la contrainte ? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer, penser d'autres outils à l'heure actuelle ?
Il existe déjà des formes d'incitation, c'est-à-dire que on peut très bien concevoir non pas des sanctions négatives pénalisantes, mais des mesures incitatives, c'est-à-dire si vous respectez tel comportement, si vous renoncez à telle attitude, alors par exemple, on peut vous ouvrir tel ou tel marché, on peut baisser les droits de douane sur un certain nombre de produits.
Et ça marche ?
Et ça marche. Et je crois que cette modalité incitative, persuasive et douce peut être finalement plus efficace que les sanctions négatives.
Et c'est l'heure de retrouver Amélie Perrault pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Amélie.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le salon Livre Paris a fermé ses portes hier et vous revenez sur la question de la rémunération des auteurs qui a été discutée.
10% minimum, disait l'autocollant que portait au salon du livre des membres du Conseil permanent des écrivains. 10% comme le minimum de droits d'auteur qu'ils réclament. Pour un livre vendu 15 euros, cela veut dire 1,50 euros pour son auteur, le reste étant divisé entre éditeurs, libraires, imprimeurs, diffuseurs et distributeurs. La vice-présidente du syndicat national des auteurs et compositeurs, Bessora Nanengema, rappelait hier que le taux moyen est à 8% en littérature et en BD et descend même à 5% en littérature jeunesse. Elle disait que l'auteur, à la base de l'économie de la chaîne du livre, en est l'acteur le moins rémunéré, dans la même situation qu'un producteur agricole du tiers-monde qui fait vivre toute une filière.
Et ces débats au Salon du Livre sont la suite d'une mobilisation des écrivains qui a démarré l'année dernière.
Oui, car moins de 10% des auteurs ont une rémunération supérieure au SMIC, 5% touche une retraite, et ici comme ailleurs, les femmes gagnent moins que les hommes. Pour défendre leurs droits, ils ont tenu les premiers états généraux du livre en mai dernier, et la deuxième édition aura lieu en juin. D'ici là, le ministre de la Culture, Franck Riester, vient de confier à Bruno Racine, ancien président de la Bibliothèque nationale de France, la mission de mener une réflexion sur le statut des auteurs, mission que le ministre a décrite comme complexe et audacieuse.
Et si la mission est complexe, c'est parce que ces débats sont au cœur de deux questions difficiles, celle de la surproduction de livres et celle de la professionnalisation du métier d'écrivain.
Celle de la surproduction d'abord. Depuis 10 ans, les éditeurs publient plus de titres, mais en moins d'exemplaires. Pour le Conseil permanent des écrivains, les éditeurs multiplient les nouveautés pour accroître leurs chances que l'un de ces titres se démarque, sans accompagner efficacement le lancement de tous les livres. Moins d'exemplaires, moins de temps en librairie, et donc moins de revenus pour chaque auteur. Du côté de l'édition, Laurence Cailleret, responsable juridique chez Actes Sud, disait quant à elle sur notre chaîne en juin dernier qu'elle regretterait qu'il y ait moins de projets qui se réalisent et que cela serait au détriment d'une grande part de rémunération de certains auteurs sur des projets qui ne se feront pas. Une question étroitement liée à la seconde, être écrivain est-il un métier ? L'éditeur David Louvard de la compagnie littéraire estime qu'il est de toute façon très difficile d'en vivre au départ et qu'il s'agit plutôt de donner le maximum avec humilité en voyant où cela mène. Une façon de voir l'écriture comme une vocation plutôt qu'une profession, mais cela ne devrait pas empêcher de penser sa juste rétribution.
En attendant, Amélie, de nombreux auteurs ont à côté de l'écriture une autre activité qui leur permet de vivre.
Les écrivains ont-ils au fond vraiment besoin de manger ? J'ai besoin de mâcher longtemps et de boire beaucoup d'eau, répond l'écrivain Thomas Vineau. Cette question, ce sont Colline Pierret et Martin Page qui la lui posent dans le livre « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» paru aux éditions Monstrographe. Thomas Vineau, qui est l'auteur, entre autres, d'Il y a des monstres qui sont très bons et de Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, raconte avec d'autres artistes et écrivains comment il organise sa subsistance économique et tente de diminuer la place du travail alimentaire. Lui qui a reçu plusieurs prix littéraires, dit avoir été étudiant boursier, ouvrier agricole, en contrat de réinsertion, agent administratif, en congé parental, et précise sur le site de l'un de ses éditeurs avoir vendu des frites, ramassé des fruits et photocopié des photocopies. La semaine dernière, un article du Monde intitulé « La double vie des écrivains » rappelait qu'il n'y avait là rien de nouveau en soi. Edgar Allan Poe enseignait l'anglais, James Joyce fut employé de banque, Franz Kafka a travaillé dans les assurances, mais le nombre déjà réduit de romanciers qui vivent uniquement de leurs plumes, s'amenuisent au fil des années. Finalement, que ce soit ou non un métier, écrire est un travail. Et derrière la double vie des écrivains et leur rémunération, la question qui se pose est bien celle de la reconnaissance, y compris économique, de ce travail.
Don't you cry, my baby never dies. Oh baby, don't you cry, the king is gonna dry.
se quitte avec le groupe français Jack the Ripper, avec la chanson Death of the Writer. Merci beaucoup François Géré et Jean-Marc Touvenin de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les méandres des sanctions internationales. Et merci aux techniciens de la NPO à La Haye qui ont assuré ce duplex. Demain, on essaiera de comprendre comment les États-Unis font du droit une arme économique contre les entreprises étrangères. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups.